Alors, déjà, forcément, c'est la rencontre avec les gens. Je pense que si tu n'aimes pas les gens, tu peux pas faire ce métier. C'est pas possible. Moi, mes meilleurs moments, ça a toujours été des rencontres avec des personnes.
Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Les Clés du Gîte. Je suis Laura, toulousaine installée dans le Lot depuis 3 ans et propriétaire du gîte de groupe Le Moulin de Bernard. J'en avais marre de n'avoir personne avec qui parler de mes galères administratives, de passer des jours entiers à faire du ménage et ne croiser personne. Alors j'ai décidé d'aller à la rencontre d'autres professionnels comme moi. Équipée de mon micro et d'un casque sur la tête, j'enregistre les témoignages d'hôtes passionnés et passionnant. Mais ce n'est pas tout. Cette année encore, j'interview également des experts qui partagent sans limite leurs connaissances et conseils avec vous. Et parce que jamais 203, cette année ce sont 3 épisodes par mois, avec la découverte d'une marque, d'un prestataire ou d'une initiative. Qui sait, ce sera peut-être votre prochain partenaire. Comme toujours, vous retrouvez les coordonnées de mes invités dans les notes de l'épisode. Enfin, j'ai énormément de plaisir à lire tous vos super messages et avis que vous me laissez sur Apple Podcasts ou sur Instagram. Alors merci à vous de faire grandir le podcast et surtout, n'arrêtez pas! Vous me demandez souvent où je puise toute mon énergie et je dois vous avouer mon secret. C'est tout simplement vous, vos retours, vos partages et votre soutien. Allez, place à l'épisode du jour. Bonjour Fred.
Salut Laura.
Alors, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Tu me fais beaucoup rire sur Instagram. Tu partages les coulisses de notre métier sans filtre et c'est très réconfortant.
Ouais, tu vas me faire rougir là.
Mais c'est sincère, on rêve tous de t'avoir pour collègue. Vraiment, j'adorerais pouvoir faire mes séances de ménage avec toi. Alors, tu n'as pas réellement un gîte ou une maison d'hôte à proprement parler, mais je ne doute pas que tu auras plein de conseils à partager avec nous. Avant toute chose, et pour ceux qui ne te connaîtraient pas, mais je pense que tout le monde te connaît, est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu, s'il te plaît?
Alors, je suis Fred, comme tu l'as dit. Moi, alors effectivement, j'ai pas une maison d'hôte, j'ai pas un gîte, mais un meublé de tourisme qui se situe à Courbevoie. C'est très proche du quartier de Paris La Défense. Donc j'habite une grande maison qui fait 5 niveaux. Et dans les étages supérieurs, j'ai aménagé 2 appartements. Donc j'échange quand même beaucoup avec mes voyageurs. On se croise beaucoup, on fait des apéros. Donc c'est quelque chose qui est quand même pas du tout impersonnel et c'est pour ça que je m'associe quand même beaucoup au concept de gîte et de maison d'hôte.
Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis permise de t'inviter parce que vraiment, c'est comme ça que je le voyais aussi. On est loin peut-être des apparts qu'on connaît à Paris, impersonnels comme tu dis, où il y a, je pense pour la plupart du temps, une boîte à clés, où c'est tout à fait géré par une conciergerie et autres et où il n'y a pas d'âme, quoi. Et là, c'est pas du tout ton cas. Depuis quand? Alors, tu es propriétaire de cette maison?
Alors oui, je suis propriétaire de cette maison. Je l'ai achetée en 2 temps. Une première partie en 2013, moi j'étais propriétaire du bas de la maison, et il y a un monsieur qui habitait au-dessus, et le jour où il a décidé de vendre, j'ai vu là une opportunité de proposer des appartements à la location. Et puis, ce qui était surtout dans mon cas vraiment intéressant, c'est que comme c'était une maison en copropriété et que le jardin était aussi en copropriété, j'avais peur que une famille arrive et investisse le jardin tous les jours. Et le fait de proposer des locations meublées, moi ça me permettait d'avoir pour moi tout seul le jardin et puis au-dessus juste les appartements à louer. Alors depuis j'ai aménagé une petite partie de mon jardin pour les voyageurs qui peuvent profiter d'une terrasse et c'est plus sympa que juste un appartement tout fermé.
Et à ce moment-là, tu avais déjà des appartements en location? Est-ce que tu avais une autre activité? Est-ce que tu as toujours une autre activité? En fait, je ne sais pas tout ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu si c'est devenu ton activité principale et est-ce que tu faisais avant peut-être?
Alors, je suis toujours en activité. J'ai un métier à côté. La location des appartements, c'est un plus. C'est quelque chose que j'avais absolument pas du tout anticipé. Comme j'ai dit, en fait, c'est le jour où le monsieur du dessus est parti que je me suis dit, bon, bah, tiens, là, je peux peut-être m'investir dans cette activité que je trouvais sympa. Mais aujourd'hui, j'ai toujours une activité à côté. Ouais. Alors, je travaille dans le marketing.
Et ça te permet de gérer ton planning un peu tout seul, parce que j'ai l'impression, c'est ce qu'on voit sur Instagram, que tu es tout seul à gérer les appartements et que tu fais le ménage, les accueils, comme tu dis, toute la documentation et la partie administrative. Est-ce que tu arrives à jongler du coup avec ton activité principale?
Alors, j'arrive assez bien le faire. Alors, ma petite astuce, c'est que je prends des séjours qui sont pas trop courts. Tu vois, je fais pas à la nuit, de nuit ou très rarement.
D'accord.
Donc, j'essaie d'avoir des séjours plutôt longs. Tu vois, en moyenne, c'est 4-5 jours. Voilà, ce qui me permet, moi, juste d'être là au check-in, au check-out, de gérer mon ménage, parce que je bloque souvent une journée pour faire le ménage. Et quand vraiment je peux pas, je fais appel à une société extérieure, voilà, qui vient m'aider.
Ok.
Parce que le ménage, j'aime bien le ménage, mais faut pas que ça devienne une corvée quand même. Et voilà, je tiens pas à ramper. Voilà, je cumule un peu deux activités, tu vois.
Ben bien sûr, complètement, oui. Et sachant qu'en plus, avoir bah, des meublés de tourisme, c'est 15 000 activités en une. Donc,
Exactement.
donc chapeau, vraiment, c'est assez remarquable. Comment tu as imaginé les deux appartements quand tu les as repris? Est-ce qu'il y avait des travaux à faire? Est-ce qu'il y avait de la rénovation? Est-ce que tu as dû peut-être faire un emprunt à titre professionnel pour démontrer que les revenus générés par la location permettraient de rembourser les échéances? Comment ça s'est monté un petit peu tout ça de ton côté?
Alors là, il y a beaucoup de questions.
Oui.
Bon, déjà, les appartements du dessus, quand je les ai visités, ils étaient dans leur jus. Hein. Le monsieur, il était là, il avait 70 ans. Son objectif, c'était de se rapprocher de ses enfants qui étaient dans le sud. Lui, il était tout seul, il avait deux étages plus les combles. Il faisait pas souvent le ménage, faut le dire. Et il n'avait pas fait de travaux, je pense, depuis une bonne quarantaine d'années. Donc c'était dans, comme j'ai dit, dans son jus. Donc, il était impossible d'imaginer de louer des logements dans cet état-là. Donc, on a tout désossé. J'ai gardé les murs, le toit, et puis j'ai fait appel à une entreprise pour tout rénover. Alors ça, c'était un sacré challenge parce que bon, bah, le budget, il était assez serré. J'avais pas forcément prévu d'investir autant à ce moment-là de ma vie, mais en même temps, je voulais pas laisser passer l'opportunité. Donc, il a fallu monter tout un dossier pour expliquer à la banque les revenus qui pouvaient être générés par cette activité, voilà, comptabiliser les travaux. Pour donner des chiffres, j'en avais quand même pour plus de 5 000 euros de travaux pour rénover juste les deux appartements et les combles, ce qui correspondait à environ 110-120 mètres carrés, tu vois. Donc c'est quand même un gros budget.
Et que pour la partie travaux, sans parler des achats des équipements, du mobilier, des choses comme ça, ou un peu tout inclus?
Ah ouais, non, 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 juste les travaux.
Oh là là,
Il y a
ouais.
plus de 100, je sais plus, je crois. De mémoire, avec les cuisines et tout, il y avait pour 120 000 euros de travaux. Hein. Voilà, plus un peu plus de 500 000 euros d'achat, parce que c'est quand même très cher sur Paris. Ouais, moi, je dis tout, hein. Moi, je suis sans filtre.
Mais c'est génial.
Hein. Voilà, mais en même temps, c'était pas imaginable de pouvoir louer des appartements dans l'état où c'était. On s'est posé la question aussi de garder le parquet qui était d'origine ou pas. Et puis en fait, on a voulu faire des travaux d'isolation parce que c'est une vieille maison et que ouais, c'est quand même hyper sonore. Même en ayant fait les travaux aujourd'hui d'isolation, t'as quand même une sonorité entre les appartements qui existent. Hein. Mais bon, ça c'est classique des vieux appartements parisiens. Bon, voilà. Donc ça, on peut rien y faire. En tout cas, on a fait le maximum. Et aujourd'hui, la bonne retombée, c'est que, bah, franchement, j'ai pas souvenir d'un voyageur qui n'ait pas été satisfait de ce qu'on propose. Donc ça, c'est une vraie réussite.
Bien sûr. C'était ta première rénovation ou tu avais déjà fait...
Alors, de cette ampleur, oui. De cette ampleur, oui. Ça s'est pas forcément super bien passé, hein, parce que, alors, comme je disais, le temps était compté. On avait compté 3 mois de travaux, et je sais pas si tu connais un petit peu, mais quand tu fais appel à un entrepreneur, tu dis, ouais, c'est fait en 2, 3 mois, vous inquiétez pas, je garde une marge et tout ça. Donc, de cette ampleur-là, moi, j'avais jamais fait, et j'ai fait confiance à un entrepreneur. Mais au final, il a fallu quand même lui taper un peu sur les doigts pour que ça tienne à peu près dans les temps. Au final, il a mis 4 mois pour le faire, ce qui est quand même, je trouve, un exploit. Quand je discute un petit peu avec les gens autour de moi, je me rends compte que c'est souvent beaucoup plus long que ça.
Tout à fait.
Après, ouais. Et après, très honnêtement, il y a eu plein de malfaçons. Il y en a encore aujourd'hui. On essaie de les résorber petit à petit. Mais bon, ça reste des problèmes mineurs, donc on arrive à s'en tirer. Et puis voilà, on fait les travaux au fil de l'eau, voilà. Mais bon, je trouve quand même que 4 mois pour gérer ça, c'était un exploit. Et il fallait vraiment qu'on mette en location parce que le budget, il était mais serré serré quoi.
Oui, je comprends, il y avait un gros enjeu financier. Comment t'avais imaginé que ce serait tant de couchage dans un, tant de couchage dans l'autre, que là on mettait la cuisine, que la salle de bain on la faisait comme ça? Est-ce que c'était quelque chose qui naturellement t'est venu? Est-ce que tu t'es fait accompagner?
Pas d'accompagnement, tout au feeling.
Ok.
Non, c'était assez compliqué de se projeter parce que, encore une fois, tout est arrivé un petit peu en même temps. Il fallait, les salles de bain étaient pas forcément très grandes. Il fallait imaginer comment on pouvait les organiser. Il n'y avait pas forcément non plus d'échauffour à chaque étage. Le chauffe-eau chez le monsieur avant était dans les combles. Nous, on voulait récupérer les combles. Il fallait mettre les chauffe-eau ailleurs, il fallait des chauffe-eau individuels. Donc tout ça, c'était des petites questions. Voilà, il fallait réfléchir. Et le soir, après ma journée de travail, je réfléchissais, je me disais, bon, mais qu'est-ce que je fais?
T'as pris du
Voilà.
plaisir dans les travaux ou pour toi ça a été un peu une corvée?
C'est toujours du plaisir, je trouve, de se lancer dans quelque chose de nou nouveau. Mais moi, j'adore tout ce qui est déco, aménagement, etc. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir, mais c'était aussi beaucoup de stress parce que je voyais le temps qui passait, les travaux qui avançaient pas forcément selon le bon timing. Mais bon, globalement, c'était du plaisir. Ce que je regrette peut-être un peu, c'est de pas avoir réussi à me projeter. Tout à l'heure, tu me disais comment on a mis les cuisines, les chambres, etc. Les prises aujourd'hui sont pas forcément aux bons endroits parce que les logements tels que je les imaginais sont pas finalement ceux qui sont devenus aujourd'hui. Voilà. Donc il y a des prises qui auraient pu être optimisées. Voilà. La grosse question que je me suis posée, c'était sur un des appartements. Donc c'est deux appartements avec deux chambres. Et une cuisine. Il y a un appartement qui a une cuisine séparée, et il y a un appartement où finalement j'ai décidé de mettre la cuisine dans la pièce de vie. Mais je me suis vraiment posé la question et je me suis fait aider de mon entourage pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il était plus judicieux d'avoir une cuisine indépendante et un salon à vivre avec vraiment le coin salle à manger, le coin pour regarder la télé? Ou est-ce qu'il fallait vraiment deux chambres, sachant que la deuxième chambre risquait d'être un peu petite. Et puis finalement, en regardant quand même ce qui est proposé à Paris, la solution de faire une plus petite chambre qui fait finalement 8 mètres carrés, mais on se rend compte qu'avec une petite armoire, un lit, un petit bureau, ben, tout rentre, c'était plus judicieux. Parce que ça permet de se démarquer et aujourd'hui t'as beaucoup de familles qui viennent et qui cherchent deux chambres. Et aujourd'hui sur Paris t'as pas forcément ça quoi. Donc tu vas avoir un appartement avec une chambre et un couchage dans le salon, mais bon c'est pas la même expérience. Voilà donc moi je trouve que c'est un vrai plus aujourd'hui. Je regrette absolument pas ce choix. Personne nous a jamais dit la cuisine dans le salon, c'est pas pratique. Au contraire, ils trouvent ça vraiment convivial. La cuisine, elle est juste à côté. Le coin de cuisine est juste à côté de la table.
Eh oui.
Voilà. Et puis les familles sont contentes d'avoir chacune leur chambre, celle des parents, celle des enfants. Voilà.
Tu as ouvert à quelle date exactement?
J'ai ouvert. C'était en août 2018.
Et aujourd'hui, est-ce que L'activité reçoit le succès que tu espérais ou en tout cas, est-ce qu'elle te permet de rentrer dans les frais que vous avez engagés ?
C'est au-delà de mes espérances, j'ai envie de dire.
Génial.
Parce que j'imaginais pas, ouais. Et de mes espérances, mais aussi de mes amis. Ils y croyaient pas forcément parce qu'on est à la Défense qui a plutôt la réputation d'un quartier d'affaires. Et on n'imaginait pas que des touristes étrangers puissent venir ici pour visiter Paris. Et mais c'est aujourd'hui avec le recul et par rapport à ce que les voyageurs me disent que je me rends compte que finalement et là j'ai des Hollandais qui me l'ont dit pas plus tard qu'hier. Ils m'ont dit mais chez vous c'est génial parce que on est au calme, on n'est pas à Paris, on n'est pas dans un environnement pollué, voilà, c'est très au calme.
Festif, fêtard.
Ouais, et il n'y a pas de bruit, parce qu'on est un peu en retrait, donc on est dans un passage un petit peu en retrait des voies de circulation. Donc les gens, ils ont l'impression d'être à la campagne, mais à côté, tu as quand même le train et le tramway qui permettent de se rendre à Paris. Pour aller aux Champs-Élysées, par exemple, c'est 20 minutes. Pour aller à Saint-Lazare, avec le train, c'est 10 minutes. T'as un train tous les quarts d'heure et en 10 minutes, t'es à Saint-Lazare. Et à Saint-Lazare, bah, t'as tous les 10 minutes de métro que tu veux. T'es à 15 minutes à pied de la Défense où t'as la ligne 1 qui traverse tout Paris. En 30 minutes, t'es au Louvre. Voilà. Donc, moi, j'avais pas forcément capté que ça pouvait intéresser les gens. Parce que déjà, ils ont un logement plus grand parce que forcément, je suis moins cher en étant en dehors de Paris.
Bien sûr.
Voilà. Donc, c'est un véritable succès. Aujourd'hui, qui me permet de remplir mes objectifs par rapport à ta question. Aujourd'hui, le défi est relevé puisque j'arrive à rembourser la totalité de mon crédit, de mes assurances et de mettre un petit peu de côté pour toujours faire de nouveaux travaux et améliorer ce qu'on peut faire au Fauvel. Voilà.
Est-ce que ça te donne l'envie d'investir dans un nouvel, peut-être, logement ou carrément immeuble et de développer encore plus l'activité? Ou au contraire, tu es très satisfait, mais tu ne vois pas plus de développement.
Les jours où je me prends à rêver, ouais, j'imagine que les Fauvel, ça s'éteint un petit peu. Mais après, par rapport à la configuration de la maison, je vois pas tellement comment ça serait possible. Parce que si j'investissais dans un autre logement, forcément, ça serait pas sur le même terrain et je pense que je perdrai un petit peu de cette connexion avec les voyageurs. Voilà, moi ce que j'aime et ce que les voyageurs apprécient, c'est que moi j'habite en bas au rez-de-chaussée de la maison. Je suis toujours joignable. Quand ils ont besoin de quelque chose, ils m'appellent. En 5 minutes, je leur trouve une solution. Je suis pas sûr que si j'investissais, je trouverais quelque chose juste à côté et la réactivité serait pas là si je devais investir dans un autre logement, je sais pas moi, 2 kilomètres. Voilà, donc j'aurais un terrain plus grand, peut-être que je pourrais envisager de mettre, je sais pas moi, une petite roulotte ou construire une mini maison, des choses comme ça. Mais là aujourd'hui, en tout cas, c'est pas dans les cartons. Ça me plairait, mais c'est difficile.
Est-ce que tu es aidé par un expert comptable pour la gestion justement financière des revenus et de tes charges?
Ça, c'est indispensable pour moi parce que moi, à la base, je suis un créatif. les chiffres et moi, ça fait deux. Donc, le comptable, c'est… je me repose sur mon comptable. Il m'envoie les documents et moi, j'en vois comme ça.
Est-ce que tu as trouvé de l'aide avec un autre professionnel, avocat, notaire, la CCI ou n'importe qui t'a à un moment donné aiguillé ou donné un conseil sur les procédures, les démarches, tout l'aspect légal, les choses comme ça?
Non, je t'avoue que j'ai pas trop réfléchi à ce point-là. Tu sais, à la base, en fait, quand je me suis lancé, j'envisageais juste de faire, entre guillemets, parce que j'aime pas le terme, du Airbnb.
Oui, mais tout à fait.
Airbnb avec une plateforme finalement qui gère tout. Je me disais, c'est super simple. Et puis après, je me suis laissé un petit peu emporter. Et puis, j'ai pas trouvé, dans mon cas, la nécessité de faire appel à d'autres professionnels. Mais peut-être que ça viendra. Mais là, aujourd'hui, en tout cas, j'ai pas trouvé.
Non, t'as pas ressenti les besoins, effectivement. Et justement, en parlant de Airbnb, sur quel canal de distribution tu as choisi de mettre en, en location tes deux appartements?
Airbnb pour commencer. Ensuite, j'avais testé Abritel, mais ça n'a jamais marché pour moi. Et puis Booking. Mais Airbnb, ça reste quand même mon canal de distribution privilégié. C'est peut-être 95% de mes voyageurs. C'est assez énorme.
Ah oui, d'accord. Et tu as profil plutôt français ou étranger? Alors bon, je sais que le Covid a un peu chamboulé, mais comme finalement tu as été ouvert avant la pandémie, je pense que tu as un meilleur regard que nous qui nous sommes lancés un peu plus tard. Est-ce que ta clientèle est plutôt étrangère, plutôt française? Est-ce que c'est des jeunes, des familles?
Avant, quand j'ai débuté, j'ai commencé par une clientèle vraiment internationale. J'avais extrêmement peu de Français, à mon grand étonnement. Encore une fois, parce que je ne pensais pas qu'un logement à Paris à Défense pouvait intéresser autant les touristes étrangers. Ma population, c'était essentiellement des voyageurs d'Asie et des Américains, beaucoup, quasi exclusivement, pour tout dire. Après, avec la pandémie, bon, là, j'ai une clientèle franco-française. Et puis là, je reviens sur une clientèle plus internationale, mais un peu d'américaine, mais beaucoup, beaucoup de Hollandais, Allemands, Belges. Bon, tu vois, c'est quand même une clientèle européenne.
Européenne, ouais.
Voilà. Ouais, là, j'ai beaucoup de Hollandais. Je ne sais pas pourquoi.
Mais ils sont
Ça
partout, les
n'arrête pas.
Hollandais.
Non, mais j'en avais très très peu avant. Bon, ils sont grands, les Hollandais.
Oui, c'est vrai.
Je pense à ça parce que les Hollandais que j'ai reçus hier, ils faisaient deux têtes de plus que moi. Et je me suis dit, bon, les enfants, ils vont dormir dans la chambre qui est aménagée sous les combles. Et je dois te dire que les combles, le plafond est un peu plus bas. Donc, le garçon va falloir qu'il marche à quatre pattes. Bon, c'est une parenthèse.
Et comment tu as choisi le nom des appartements? Et donc je te connais sous le nom des Fauvelles, mais est-ce qu'il y a une signification? Est-ce que c'est un gros brainstorming ou c'était une évidence par rapport au lieu?
Les Fauvelles, c'est venu comme ça.
Ok.
Parce que tout simplement, je trouvais que le nom était joli. Les Fauvelles, je trouve, ça rime avec belle, tu vois. Bon, ça rime aussi avec poubelle, mais ça rime surtout avec belle. Pour les voyageurs, je trouvais ça intéressant aussi parce que l'arrêt de tramway qui a 3 minutes à pied, ça s'appelle les Fauvelles. Et je me disais, ben tiens, ça facilite.
C'est un bon repère.
Voilà, c'est un bon repère. Voilà. Non, mais je trouvais ça joli. Puis, j'ai toujours appelé les Fauvelles. Donc,
Mais en plus, ça va bien avec Fred,
Fred les
moi je
Fauvelles.
trouve.
Fred Fauvelles. Mais par contre, si tu arrives à trouver ce que veut dire les Fauvelles, parce que j'ai cherché un peu l'étymologie du mot, s'il y avait une signification partie, j'ai pas trouvé.
Ah.
Pas trouvé.
Ah oui, parce que si ça a été
Voilà.
donné comme un nom de station, effectivement, soit c'est un inventeur,
Alors,
quelqu'un
j'avoue que j'ai pas poussé mes recherches non plus trop trop loin. Hein. J'ai cherché sur Internet, bon, j'ai pas trouvé. Je me suis dit, bon, je verrai une autre fois. Et puis finalement, bon, je suis toujours sans la réponse. Alors, si je lance un appel,
Voilà.
si les gens qui nous écoutent peuvent me dire pourquoi mon logement s'appelle Les Fauvelles, enfin surtout pourquoi la station de tramway qui est juste à côté s'appelle Les Fauvelles, ça m'intéresse.
Mais,
Voilà.
ouais, mais il faut offrir quelque chose en échange, Fred. Il faut proposer une récompense.
Eh ben, je donne ma casquette des Fauvelles à celui qui me trouve pourquoi ça s'appelle les Fauvelles.
Oh!
Et casquette à peine sûre. Hein.
Casquette non lavée.
Non lavée, bah au choix, je donnerai le choix à la personne qui remportera
Au gagnant.
ce mini concours. Voilà.
Bon, génial. Eh ben, j'ai hâte de voir si ça donne quelque chose. Alors, tu nous disais que tu étais sur Airbnb, sur Booking. Tu as fait le choix de ne pas faire de site internet particulier, personnel.
Eh bien, figure-toi que si. Depuis peu, depuis peu,
D'accord.
j'ai lancé mon site internet. Donc, j'ai acheté mon nom de domaine, j'ai acheté de l'espace de stockage et j'ai créé donc lesfauvelles.fr parce que pour diverses raisons. La première, c'est que depuis peu, je suis passé sur un channel manager.
Ah d'accord, lequel?
Voilà, j'allais dire, je ne sais pas si je peux donner le nom, c'est Amenities.
Amenities, d'accord.
Voilà. Pourquoi? Alors, la raison principale, c'est que j'avais une angoisse des doubles réservations. Donc, tu vois, le surbooking, ça, c'était une angoisse permanente. Parce que quand tu as une réservation qui tombe sur Airbnb au milieu de la nuit par un Américain qui trouve très sympa de venir aux Fauvelles, mais qui réserve à 3 h du matin, et que tu as un autre Américain qui trouve très sympa aussi les Fauvelles à 3 h 05 du matin sur Booking, eh ben, tu te retrouves avec deux réservations en même temps, pour le même appartement. Donc ça, c'est déjà arrivé plusieurs fois, et après, il faut négocier avec les plateformes. Donc moi, ça m'est arrivé 2, 3 fois de pleurer auprès de Booking, parce que si tu as du surbooking avec Booking, ils te disent: ah ouais, non mais vous inquiétez pas, on va reloger vos voyageurs. Par contre, si on trouve un logement qui est similaire au vôtre, mais qui est plus cher, la différence, elle est pour votre pomme. Bon, après, si tu pleures un peu, mais et que t'es quand même un apporteur d'affaires assez intéressant, bon, il te compte pas les frais. Mais voilà, donc moi j'avais peur de ça. Et puis bon, maintenant j'ai plus besoin de faire la synchronisation, parce que avec la synchronisation entre Booking et Airbnb classique, c'est pas instantané, alors qu'avec le Channel Manager, c'est instantané. Voilà, donc ça, c'est un peu ce qui m'a motivé. Et puis avec bah, toute l'expérience Covid et les voyageurs français que j'ai pu avoir, j'ai quand même commencé. Donc il n'y a pas que du négatif, hein. J'ai développé une clientèle de Français qui viennent souvent et qui reviennent ici. Donc avec le site internet couplé au Channel Manager, ça me permet d'effectuer les réservations en direct.
D'accord.
Voilà, je sais pas, j'étais peut-être un peu brouillon, mais
Pas du
j'espère
tout.
que tu as compris.
Non, c'était très clair. Est-ce que tu sais nous dire combien ça te coûte par mois à peu près, justement, ton abonnement avec Amenities?
Bah, au final, ça coûte pas très cher. Moi, j'essaie de raisonner. Alors, ça coûte 50 € par mois pour. J'ai fait le site internet moi-même, mais tu as une option qui te permet de faire le site internet direct.
Oui, on
Bon,
voit ça
moi j'aime
beaucoup.
bien, encore une fois, je suis créatif, donc j'aime bien, hein, je mets un peu la main à la pâte, et puis voilà, j'aime bien avoir la main sur le site internet. Donc 50 € par mois pour les deux logements.
Mais un esprit tranquille qui en vaut bien plus.
Je raisonne en ménage ou en nuit, je me dis, ben, 50 € finalement, c'est un ménage. Voilà, chez moi, le ménage est à 50 €. 50 € c'est un ménage, voilà, ben, ça me coûte un ménage. Voilà.
Comment t'as défini ta grille tarifaire? Est-ce que t'as fait une petite étude de la concurrence pour savoir comment te positionner, quels étaient les prix des autres logements environnants, etc. Ou est-ce que tu as eu une autre technique?
Ma technique, c'est à la one again.
D'accord, c'est pas mal aussi.
Non, au début, franchement, c'était un peu n'importe quoi. Moi, j'avais pas forcément compris le système des commissions Airbnb, qui n'était pas la même chose sur Booking. Donc, je me suis fait un peu avoir. Voilà, chez les gens qui réservaient sur Booking, ils payaient largement moins cher que les commissions, que ceux qui réservaient sur Airbnb, parce que voilà, sur Airbnb, c'est le voyageur qui va payer la commission en majorité, alors que sur Booking, c'est toi qui payes la commission. Bon, bref, je me suis fait un peu avoir avec ça. Encore une fois, aujourd'hui, avec le Channel Manager, je trouve ça super pratique, parce que ça te permet de définir le prix de base que tu veux pour tes logements. Et après, t'augmentes en fonction de l'OTA, enfin de la plateforme que tu vas utiliser, et ça te permet de voir en temps réel les prix qui vont s'afficher ici et là. Donc ça, je trouve ça vachement pratique. Alors qu'avant, ben, c'était des savants calculs. Alors je disais, bon, tiens, la commission de Airbnb, elle est de tant, celle de Booking, elle est de tant. J'avais mes tableaux Excel, je définissais mes prix, et puis ben, j'essayais d'avoir des prix à peu près similaires. Voilà. Après, bah, je pense que la bonne technique pour tout le monde, c'est de regarder ce qui se fait dans le coin. Hein. Donc moi, j'ai regardé un peu les tarifs alentours. Je me suis dit, bon, ben, tiens, voilà celui qui est le plus cher, voilà celui qui est le moins cher. Je regarde un petit peu leur profil sur les plateformes. Je regarde ce qu'ils proposent. Je me dis, bon, ben, tiens, là, je suis peut-être un peu en dessous. Lui, il a un balcon. Là, tu vois, j'essaie un peu de faire comme ça, et bah, de me faire une idée. Puis après, j'ai défini des critères aussi. J'ai mis bien deux chambres, parce que moi j'ai deux chambres, et c'est pas un mètre carré que je raisonne, c'est vraiment en termes de deux chambres, parce que les gens recherchent ça, quoi. Et puis après, j'ai pas essayé de mettre le plus cher ni le moins cher. Je suis à peu près dans le juste milieu, je trouve.
Est-ce que tu joues sur la saisonnalité ou pas du tout?
Oh, légèrement, parce que Le tourisme à Paris, il est un peu homogène sur l'ensemble de l'année, tu vois. Donc, il n'y a pas vraiment de...
Ouais, c'est pour ça que je me disais qu'il y a un vrai intérêt à faire saison haute, saison basse.
Ouais, j'aurais un chalet au ski, bon, forcément, je serais plus cher en hiver qu'en été, ou quoi que, j'en sais rien. Non, je me suis pas trop posé la question. J'augmente un tout petit peu mai, juin, enfin, entre avril et juin, qui est vraiment une période vraiment super forte. Et puis un petit peu à Noël, voilà, c'est les pics que moi j'ai pu observer, voilà, avec 4 ans d'arriéré. Mais sinon, c'est globalement tout au long de l'année le même tarif.
Est-ce que tu as des périodes de fermeture?
Non, je ferme pas. Je me bloque des jours quand je pars en vacances. Je bloque des jours, mais en fait, c'est pas que l'établissement est fermé, c'est juste que comme je stresse pour le ménage, moi j'aime que les appartements soient nickel. Donc quand c'est pas moi qui le fais, je sais pas, même si j'ai confiance, la dame qui vient faire le ménage ou la société, j'ai confiance, mais j'ai encore plus confiance quand c'est moi qui le fais parce que je suis hyper maniaque. Vous avez peut-être pu le voir sur Insta, moi le ménage c'est super important. Alors,
D'accord.
je vais dire un secret, hein. Faut pas le répéter à la dame qui est venue faire le ménage hier, mais par exemple, elle est venue faire le lit, mais j'ai tout redéfait, j'ai refait à ma façon, tu vois.
D'accord. T'étais pas
Voilà, parce que
satisfait.
hier, j'étais pas satisfait parce que j'aime que la couette elle rentre bien dans les coins, que ça déborde pas plus d'un côté que de l'autre.
Bien sûr.
Pour moi, en fait, le lit, c'est super important, tu vois. J'aime que quand les gens ils arrivent, bon, déjà que ce soit propre, mais j'aime aussi provoquer l'effet waouh. T'arrives et tu te dis waouh, la chambre elle est super belle, les coussins ils sont bien disposés. Alors que si t'arrives et tu vois bah t'as des plis, ta couette elle est pas droite, ça fait pas le même
Bien
effet.
sûr.
Donc moi j'aime que ce soit nickel. Voilà.
Et donc, tu fermes de temps en temps quand tu veux être sûr d'avoir le temps pour soit contrôler, soit repasser derrière, soit avoir toi le temps de faire le ménage avant une nouvelle arrivée.
Surtout n'hésite pas à me recadrer parce que je pars vite dans d'autres directions.
C'est
Donc
très bien.
par exemple, là, moi, je pars en vacances au mois de juillet. Donc, au mois de juillet, qu'est-ce que je fais? Je rallonge la durée de mes séjours. Très en amont, en fait, genre 6 ou 7 mois avant le début de la saison, je me bloque des périodes de 9 jours. Je me dis, ben, il y a peut-être quelqu'un qui va venir pour un séjour de minimum 9 jours. Et là, cette technique, elle a payé, puisque pour le mois de juillet-août, j'ai 2 séjours qui font, il y en a un qui fait une vingtaine de jours, hein, tu vois, c'est quand même pas rien.
Ah oui.
Et puis l'autre, ouais, des gens qui viennent de la Martinique ou je ne sais où, donc ils viennent quand même
Ah
presque
oui.
3 semaines. Et puis, un autre séjour d'une bonne quinzaine de jours. Et après, ben, je réduis un petit peu ma durée, mais voilà, j'ai des périodes de 7 jours. Et après, je comble, je me laisse 3 4 jours de ménage parce que j'ai toujours l'angoisse de la société qui au dernier moment pourra pas venir. Donc je bloque 3 4 jours parce que je suis sûr que ben, mon ménage il sera fait. Alors tant pis, je suis fermé, j'ai pas de location, mais moi au moins c'est le prix de ma tranquillité.
Voilà, je trouve ça hyper fort de pouvoir l'admettre et de mettre en conséquence ben, voilà, des méthodes et d'une façon de faire parce que on sait à quel point ben, les enjeux financiers sont forts, oppressants et déterminants. Et donc, je trouve ça super que tu puisses te dire ben, écoutez, oui, je vais passer à côté de peut-être 4 jours de location, mais ces 4 jours, c'est la marge de manœuvre qu'il me faut pour moi être tranquille. Et donc, je trouve ça vraiment super.
Voilà, et c'est ce qui justifie aussi mes prix un peu plus élevés en été, voilà, comme ça, moi je m'y retrouve. Voilà.
Et tu fais toujours des minimums de nuitées toute l'année?
Je fais des minimums de nuitées, en moyenne c'est 4 nuits, 4 ou 5 nuits, et après ben, ça dépend en fonction de mon planning. Je regarde là par exemple, j'ai la semaine prochaine j'avais un trou, 3 jours. Je regarde si je suis dispo, si je peux facilement gérer le ménage. Donc j'ai réduit à 2 nuits minimum. Et puis paf, ce matin, j'ai une réservation. Le trou, il a été comblé. Voilà. Donc je m'adapte. Je regarde si le ménage peut être fait. Parce que la société, finalement, elle peut pas intervenir le week-end. Samedi et dimanche, ils interviennent pas. Donc si éventuellement c'est un week-end où moi j'ai décidé de partir, parce que ça m'arrive de partir, j'aime bien prendre des vacances, me reposer. Donc là, bah, je vais pas réduire mon nombre de nuits, quoi.
Oui, bien sûr, la société n'a pas la flexibilité que tu peux avoir. Mais alors, est-ce que ça implique que tu regardes tous les jours un petit peu ton planning, tous les jours des dates un peu creuses pour dire, bon, ben, je baisse d'une nuitée minimum, je baisse mon prix, des choses comme ça. Tu fais vraiment ça tous les jours?
Ouais, tous les jours, tous les matins, moi, je regarde un petit peu ce qui arrive. Je regarde où sont les trous. Éventuellement, si je vois que j'ai des grosses périodes qui sont pas louées, bon, j'essaie d'adapter un petit peu le tarif. Alors après, il faut pas angoisser, hein. C'est-à-dire, au début, en fait, je me disais, il faut que je sois plein dans les 3 prochains mois. Tu vois, si j'étais pas pris les 3 prochains mois, j'étais angoissé. Mais en fait, c'est pas du tout le bon raisonnement. Il faut vraiment avoir en tête que les gens, souvent, ils peuvent réserver à la dernière minute. Donc, voilà, moi je te dis, la semaine prochaine j'avais un trou de 3 nuits, je me suis dit bon, bah, ça va être repris. Effectivement, c'est une semaine avant, il y a des gens, même la veille, même des gens le jour même, ils vont réserver. Donc non, j'ai pas d'angoisse. Et puis maintenant, j'ai surtout suffisamment de recul pour me dire bon, bah, je sais que hors pandémie, qui est un cas vraiment particulier, ça se loue très très bien. Voilà. À partir du moment où tu affiches des bons tarifs, que tu proposes un logement qui est bien, que tu as de bons avis, il n'y a pas de raison de te faire du souci. Hein.
Non, j'adore.
Et puis éventuellement, au dernier moment, tu t'ajustes un peu, tu fais une promo histoire de dire bah tiens, allez, je vais booster un petit peu les réservations. Franchement, ça marche toujours. Enfin, en tout cas, pour moi, ça marche.
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, c'est l'une des erreurs que j'ai faites et que je peux des fois rencontrer avec certains de la communauté où on va établir une certaine stratégie tarifaire et puis ça se remplit pas, on a peur et on va plutôt accepter une réservation qui rentre pas dans ces critères-là juste par peur de ne pas la remplir. Et puis finalement, quelques jours après, on a la bonne demande et c'est trop tard parce que on s'est pas fait confiance. Donc, ouais. Après, je suis persuadée. C'est le recul qui te permet de gagner en cette confiance, etc. Mais voilà, si c'est un conseil qu'on peut encore appuyer pour les auditeurs et auditrices, faites-vous confiance. Comme dit Fred, si le prix est bon, si vous avez cerné qu'il y avait un potentiel sur cette période-là, si vous, ça a été votre stratégie, assumez-la jusqu'au bout et ça va se remplir. N'ayez pas peur du last minute.
Moi, je trouve que c'est assez difficile de trouver le juste prix, comme dirait Philippe Rosoli. Donc, si tu mets trop cher, bon, ben, les gens, ils vont être exigeants, ils vont dire, bon, ben, finalement, le tarif est trop élevé par rapport à la prestation. Et si tu mets pas assez cher, tu vas te retrouver avec des gens qui vont être super exigeants dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'ils veulent pas payer cher, mais ils veulent avoir un maximum de prestations.
De services, d'attention.
C'est ça qui est paradoxal. C'est que dans les deux cas, en fait, tu as des gens trop exigeants. Donc, si tu es au juste milieu, mais après, voilà, la difficulté, c'est de trouver le juste milieu. Mais moi, comme je disais tout à l'heure, je pense que la stratégie que j'ai adoptée, et ça me semble être la meilleure, c'est de regarder un petit peu ce qui se fait autour, de mettre des critères sur Airbnb ou Booking qui correspondent au logement que tu as et de regarder un petit peu qu'est-ce qui s'affiche. Et puis, après, tu fais ta popote et tu proposes le tarif qui te semble adapté.
En parlant de clients exigeants, quelle est ta limite? Qu'est-ce que tu... parce que tu le disais en intro et moi, c'est ce que je ressens à travers ta communication. T'es très borderline avec le côté gîte ou maison d'hôte parce que tu accueilles toi-même, tu as plein d'attention pour les arrivées, etc. Mais quelles sont les limites que tu t'es données pour pas rentrer dans de la conciergerie et de la mise à disposition à 100%?
Alors, franchement, je me suis jamais posé cette question parce que j'ai jamais eu le problème. J'ai toujours eu des voyageurs qui étaient assez respectueux finalement de ma vie privée. J'ai pas eu en fait de demande vraiment qui soit extravagante ou non, je sais pas.
Oui, non, on a toujours respecté quand même ton intimité à pas t'appeler toutes les 5 minutes pour te demander où sont les petites cuillères, où est ça, où est-ce que je peux louer un vélo, où est-ce que je peux faire ci.
J'ai jamais eu ça. Après, Si j'ai eu des gens qui sont un peu plus présents, mais c'est en fait finalement c'est parce que je me suis rendu compte ils n'avaient pas forcément l'habitude de réserver ce type de logement. Souvent c'est la première fois qu'ils réservent en dehors des hôtels classiques, donc ils se posent beaucoup de questions et au final bah, ils t'appellent souvent parce qu'ils savent pas trop comment faire.
Ils ont besoin d'être
Mais
assistés.
exactement. Donc mais après c'est j'ai envie de dire, c'est toujours bienveillant. La seule fois où là, je l'ai eu un peu amer, c'est un monsieur, sa fille était malade, il a tapé à ma porte à 11h30 du soir. Il me demandait s'il avait pas, si j'avais pas, pardon, des Doliprane. Voilà, je lui ai donné tout. Bon, je l'ai vraiment accompagné. Et puis paf, quand il est parti, il m'a mis une mauvaise note sur Booking
Ah
parce
oui.
que il avait vu un peu de poussière sur un meuble. Voilà. Donc, bon, j'étais un peu déçu parce que moi, j'essaie d'accompagner les gens et puis bon, tu te fais taper sur les doigts finalement derrière pour juste un peu de poussière. Alors, c'est important la poussière, mais en même temps, c'est hyper formateur parce que bon, encore une fois, c'était au début. Moi, franchement, le ménage, c'était pas ma passion au début, hein. Aujourd'hui, c'est pas forcément ma grande passion, mais honnêtement, je prends plaisir à le faire parce que j'ai envie de faire plaisir aux gens et j'ai envie de proposer un appartement qui soit nickel. Donc voilà, il y avait des petites astuces que j'avais pas au début, que des petites, ah, je trouve pas le mot,
Des façons de faire,
aide-moi,
je sais
Laura,
pas, des techniques, des réflexes.
des réflexes. Voilà, c'est le mot qu'il fallait trouver. Réflexe, t'as perdu. J'avais pas les bons réflexes. Aujourd'hui, je les ai. Voilà, la poussière, je sais les endroits qu'il faut pas oublier. Briquer les robinets, c'est super important, tu vois. Faut bien les nettoyer parce que voilà, j'ai une dame un jour qui était pas contente parce que le robinet était pas nickel nickel. Voilà, mais en même temps, elle avait demandé à arriver plus tôt. Donc voilà, moi j'essaie de me mettre en quatre pour faire à fond la caisse, à fond la caisse. Et puis bon, bah voilà, quand tu vas vite,
C'est drôle que ce soit avec des personnes avec lesquelles tu as été hyper serviable et au-delà un petit peu de ton rôle, qui s'arrêtent sur des détails de ménage et reconnaissent pas la gentillesse dont tu as fait preuve, quoi. Moi, ça me fait un peu halluciner, ça.
Bon, ben écoute, après, c'est pas grave, comme me dirait l'autre, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, mais bon, c'est fait.
Oui, c'est vrai.
Maintenant, enfin, honnêtement, on a toujours de bonnes notes. Donc, j'ai pas souvenir d'une mauvaise expérience avec un voyageur au cours je pense, les 3 dernières années qui se sont écoulées. Franchement, tout se passe toujours très bien. Ouais. Sauf pendant la pandémie, mais ça c'est autre chose. Je ne sais pas si on pourra en parler, mais...
Ouais, ça a mis en difficulté l'activité. Est-ce que ça a été une part d'opportunité
Les
aussi?
deux. Les deux. Déjà, quand il y a eu la pandémie, ça faisait un an que j'avais ouvert. J'arrivais au mois d'avril, là, 2000, c'est quand? J'ai oublié. 2019. Avril 2019. C'est ça? 2019. On arrivait vraiment à une période où on était en pleine explosion, quoi. Tout était rempli. Enfin, j'étais super content du succès des Fauvelles. Et puis, j'ai vu les réservations s'annuler, s'enchaîner, annulation sur annulation. Donc ça fait un choc. Et tu te retrouves avec un planning. Bon, je parle pour moi, mais je pense que c'est tout le monde pareil. Hein. Avec un planning, mais c'est le désert, quoi. Plus rien. Donc là j'ai vraiment eu peur parce que les réservations bah ça redémarrait pas. Et heureusement j'étais arrivé dans mon crédit avec la banque à un niveau suffisant pour pouvoir mettre en pause mon crédit. Donc j'avais la possibilité avec ma banque, la Caisse d'Épargne, pour ne pas la citer, que je salue au passage parce que je pense qu'elle m'écoute. J'avais la possibilité de poser mon crédit d'1 ou 2 ans. La question, c'était de savoir, mais quand est-ce que la pandémie va s'arrêter? Et ça, personne ne le savait, même pas moi. Donc, finalement, j'ai fait le pari de poser mon crédit pendant un an. Et c'était le bon choix, parce que bon, tu poses le crédit, enfin tu fais une pause dans ton crédit, mais attention, c'est pas la philanthropie avec les épargnes non plus, hein. Tu poses ton crédit, mais tu vas payer un peu plus, hein. Voilà. Donc, mais bon, c'était vraiment une solution avantageuse pour moi, parce que mon crédit, j'étais pas en mesure du tout de le payer. Voilà. Zéro rentrée d'argent, zéro crédit à payer, enfin, je pouvais payer, en tout cas. Donc beaucoup de stress. Toutes les réservations se sont annulées et un jour j'ai eu une réservation pour une semaine et je me suis dit, ah bien c'est génial, c'est pas complètement fermé, on peut encore avoir des revenus même pendant la pandémie. Donc c'était des gens, alors je me suis pas méfié, je me suis pas méfié, c'est des gens qui habitaient à côté, une ville à côté. Sur le coup, je me suis dit, mais pourquoi ils veulent louer chez moi finalement? Mais bon, j'étais tellement content d'avoir une nouvelle réservation dans un contexte où j'avais zéro rentrée d'argent que je me suis pas vraiment méfié. Et je me suis pas méfié et au final, je me suis retrouvé avec, j'ai hébergé des professionnels du sexe. Voilà.
Ah oui, d'accord. Comment tu l'as découvert? Parce qu'il y avait des allées-venues forcément de clients ou
Faut d'abord que je parle de la configuration de ma maison. Moi, donc une maison avec deux entrées indépendantes. Moi, j'ai la mienne qui est d'un côté de la maison et pour accéder aux appartements, une autre entrée qui se situe de l'autre côté de la maison. Donc moi, je vois absolument pas quand je suis devant chez moi ce qui se passe à l'entrée des appartements. Voilà.
D'accord.
Donc oui, si j'ai quand même installé une caméra vidéo pour voir ce qui se passe à l'entrée. À l'origine, c'était surtout pour moi quand je suis au boulot, de pouvoir vérifier quand les gens arrivent et de pouvoir éventuellement communiquer avec eux, de voir s'ils arrivent bien à rentrer quand je suis pas là pour leur remettre les clés. Donc voilà, la caméra, ça avait cette efficacité-là.
Cet intérêt-là.
Exactement. Donc les gens qui ont réservé, bon bah finalement ils ont pris les clés et puis ils sont rentrés et puis voilà, moi je m'en occupe pas. Et c'est au bout de, franchement, ils avaient réservé pour une semaine, c'est au bout de 3 jours que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu du bruit au-dessus. Je me suis dit, ils sont pas que deux, ils ont réservé que deux, et ils sont pas que deux. Et j'ai regardé la caméra et là je me suis dit, putain, ils sont quatre. Et après je regarde un petit peu les vidéos suivantes, je vois un mec qui rentre. 15 minutes après, il ressort. Il y en a un autre qui arrive, un autre qui ressort. Et ça a fait ça toute la nuit. Et là, je me suis dit, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Qui j'héberge? Et là, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? J'appelle la police. Et puis tu dis, non, quand même, qu'est-ce qui va se passer? C'est quand même ma maison, tu vois, j'habite sur place. J'avais peur des représailles. Puis tu ne peux pas non plus aller toquer à la porte. Tu te dis, est-ce qu'ils sont
Bien
armés,
sûr.
ces gens-là? Franchement, je ne savais pas du tout quoi
Mais c'est
faire.
ça.
J'étais désemparé et après j'ai regardé aussi les vidéos. Le truc le pire, c'est que voilà, moi j'ai une fille qui avait 11 ou 12 ans à l'époque. Bon, mais je me disais finalement, elle se trouve à côté de ces jeunes-là. Tu vois, ça m'a retourné. Franchement, c'était une période hyper difficile et donc j'ai fait le choix finalement de ne rien faire. Voilà, j'ai laissé couler, j'ai laissé pisser, je me suis dit, allez, quand ils sont partis, on n'en parle plus, et j'ai fermé. Et là, pendant la pandémie, ensuite, j'ai fermé. Voilà, ça m'a tellement marqué, et j'ai même verrouillé le portail, quoi. J'ai mis un cadenas au portail, je voulais plus que personne rentre. Voilà. Donc pendant plusieurs semaines, j'ai été complètement fermé. Voilà.
Est-ce qu'ils ont remanifesté un intérêt pour ton logement? Est-ce qu'ils ont essayé de prolonger leur séjour? Ou est-ce que ça a été en soi très correct parce qu'ils ont rendu l'appart et puis tu n'en as plus entendu parler?
Alors, ils ont rendu l'appart dans un état déplorable. Parce que autant ils faisaient pas de bruit, parce que voilà, il faut quand même qu'ils se cachent. Hein. C'est-à-dire, le problème en fait, c'est que comme tout était fermé, les hôtels et tout ça, tu pouvais pas rester dans la rue. Il fallait bien que ces professionnels du sexe trouvent une autre manière de pouvoir travailler. Donc la solution, c'était malheureusement les logements type Airbnb. Et voilà, donc moi je faisais partie. Mais j'étais à 5 000 lieues de penser que ça pouvait m'arriver, quoi.
Bien sûr, c'est ouf.
Et je vais tout te dire, Laura, le problème, c'est que ça m'est pas arrivé qu'une fois. C'est que plus tard, après avoir réouvert mes logements, on était quand même, les confinements, ils se sont succédés, les couvre-feux et tout ça. Donc, ces gens-là, ils étaient confrontés à la même situation, qu'ils ne pouvaient pas continuer à travailler dans des configurations normales, entre guillemets. Donc, je me suis retrouvé une autre fois à héberger ce genre d'individus. Donc, la deuxième fois, par contre, là, ça a fait qu'un tour. Je veux dire, la première, ils sont arrivés, ils sont repartis dès le lendemain, menottes au poignet, hein, parce que là, c'était pas possible une deuxième fois de vivre l'expérience. Donc, moi, j'ai appelé les flics, hein, ils sont venus, ils ont tout embarqué et je les ai plus revus, les gens. Voilà. Mais oui, je reviens à ta question. La première fois, ils m'ont laissé un appartement dans un état déplorable. C'est-à-dire qu'ils fumaient à l'intérieur, fenêtres fermées. J'ai mis des semaines avant de retrouver un air sain. Voilà, ça empestait la clope. C'était sale. Enfin, je veux même plus y penser. C'était voilà, catastrophique.
Est-ce que tu as pu signaler leur profil via le site sur lequel ils avaient réservé pour au moins t'assurer déjà de ne pas avoir une deuxième réservation de leur part, mais aussi ben, toi aussi pour laisser un avis pour dire ben, attendez, leur faites pas confiance déjà, il y a ça, mais en plus ils rendent le logement dans un état déplorable.
Alors oui, j'ai eu la possibilité de le signaler. Là, pour le coup, c'était des clients Airbnb, mais je dois dire qu'il y a eu un accompagnement d'Airbnb derrière qui était quand même assez important. Donc ils ont compris l'importance de la situation et ils ont pris en charge tous les dégâts qui ont été occasionnés par ces jeunes-là. J'ai pas précisé, ils sont partis avec les clés de mon appartement. C'est-à-dire que j'avais plus les clés, donc j'ai dû changer les serrures. Et là, bah, tu vois, j'étais content de passer par Airbnb parce que il y a quand même une assurance, une garantie haute qui prend en charge ce genre de désagrément. Et ils m'ont remplacé les serrures. J'ai mis des serrures sécurisées, mais tout de suite, hein, ils sont partis. J'ai changé mes serrures direct,
Ben oui.
direct, direct. Et j'ai bien fait parce que ils avaient oublié un truc dans l'appartement. Le lendemain à minuit, ils sont revenus avec la clé. Je les ai vus, ils ont essayé d'ouvrir. Alors, ils n'ont pas pu rentrer, ils avaient plus la clé. Mais ouais, si, franchement, si ce genre d'aventure arrive, si les gens prennent la clé, il faut changer les serrures. Ça, c'est obligé, quoi. Parce qu'on ne sait pas, on sait pas ce qui peut se passer par la suite. Bon, bref, ça a été vraiment un événement traumatisant pour moi.
Ben oui, je comprends et c'est choquant. Mais je pense que tu as très bien géré la situation et tu as fait ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il y a des façons de se prémunir de ce genre de réservation? Parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance que c'est des personnes qui vont avoir cette activité-là, parce que j'imagine bien qu'ils ne font pas un profil avec.
Non, en fait, il faut faire très, parce que je pense que j'ai eu plein de touches, des gens qui venaient pour ça chez moi, mais que j'ai réussi finalement à ne pas accepter. Parce que y a des choses en fait qui doivent mettre la puce à l'oreille. Après, je ne sais pas comment ça se passe en province, mais en tout cas, s'il y a des gens qui nous écoutent en région parisienne, il faut faire attention quand même aux gens qui réservent alors qu'ils ont une domiciliation à proximité. Il faut faire attention aux gens qui vont dire c'est pas moi qui vais venir récupérer la clé, c'est un ami. Faut faire attention aux gens qui disent on est deux et qui finalement arrivent à quatre. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Moi, j'ai réussi à voir et à me projeter, à me dire bon, ben, ces profils-là, ils sont suspects. Et quand j'avais un profil suspect, j'avais un message préformaté que je leur envoyais pour leur dire attention, ok, vous arrivez, mais il y a des caméras de surveillance, donc quand vous arrivez, vous êtes filmé. À votre arrivée, votre identité est vérifiée. Les personnes qui sont non prévues pendant le séjour ne seront pas admises. Si vous arrivez à plus de personnes que ce qui est prévu, vous ne rentrez pas. Voilà. Donc c'est des conditions vraiment strictes que j'avais posées. Et il est arrivé que suite à la réception de mon mail, des gens annulent leur réservation. Et là, je me dis, ben voilà. Donc c'était des gens encore qui venaient faire leur petit business chez moi.
Est-ce que ça te donne encore plus envie d'essayer de faire de la vente en direct? pour avoir justement ce filtre, on va dire, avec tes futurs locataires?
Alors moi, je suis dans une configuration un peu particulière, c'est que j'ai une activité à côté. Donc la réservation en direct, c'est pas une priorité pour moi parce que passer par des plateformes de réservation, ça me permet moi de me décharger d'un certain nombre de choses sur eux. Alors c'est sûr, il y a des commissions qui sont importantes, hein, ça on peut pas le nier, mais moi je m'y retrouve parce que quand je discute avec des gens qui ont des chambres d'hôtes ou des gîtes et qui me disent la personne en direct elle veut réserver, mais elle m'appelle une première fois, ensuite elle n'est pas sûre, ensuite elle veut négocier le prix, et ensuite elle me rappelle pour savoir ceci, cela. Moi, j'ai pas le temps de faire ça. Alors que quand je passe sur une plateforme, bah, les gens, je sais qu'ils réservent, et ensuite je m'en occupe plus jusqu'à ce qu'ils arrivent. J'échange juste avec eux en amont de leur arrivée, mais voilà, moi j'ai rien à gérer dans l'intervalle. Donc moi je m'y retrouve par rapport à ça, et puis je trouve que j'arrive quand même assez bien à gérer les difficultés que je peux avoir avec certaines catégories de profils. Donc voilà. Et en direct, bon bah je privilégie finalement le direct pour mes habitués.
D'accord. On a parlé, je pense, de ben, la plus grosse difficulté à laquelle tu as été confrontée. Est-ce que, à contrario, tu peux nous raconter un de tes plus beaux souvenirs au cours de l'activité?
Alors déjà forcément c'est la rencontre avec les gens. Je pense que si t'aimes pas les gens, tu peux pas faire ce métier. C'est pas possible. Donc moi mes meilleurs moments ça a toujours été des rencontres avec des personnes. Alors ça peut être des apéros, voilà des échanges ou voilà. Mais je pense que le meilleur moment c'est avec des Américains qui sont venus à Noël. Et je les avais invités, je leur ai dit est-ce que ça vous tente de faire une dégustation un petit peu à l'aveugle avec des spécialités françaises. Et ils m'ont pas demandé ce qu'ils allaient tester, mais ils m'ont dit oui tout de suite. Et en plus, c'était Noël, donc c'était un moment, tu vois, vraiment de partage et tout ça. On s'est échangé des petits cadeaux. Et puis eux, ils sont venus bah, goûter des huîtres, goûter des escargots, la quiche Lorraine, du foie gras. Et franchement, j'en garde un souvenir bah, extra, quoi. C'était génial de partager ça. Et puis en plus, bah, ça permet de parler anglais, de découvrir leur culture. En fait, ils n'avaient jamais vu, par exemple, comment on ouvrait des huîtres. Voilà, et ils ne savaient pas du tout comment ça se passait. Donc pour eux aussi, c'était une expérience extraordinaire. Et tu vois, rien que le fait de leur procurer ce plaisir-là et de finalement de découvrir cette vie chez l'habitant, c'était génial, quoi. Moi, j'étais content de leur faire un plaisir. Voilà.
C'est génial, ça se ressent même quand tu le racontes, c'est chouette.
Ouais, non, mais c'est parce que en plus c'était des gens géniaux. Il y avait ma mère qui était là. Je rigole parce que ma mère elle parle pas un mot d'anglais, hein. Et elle discutait avec un jeune qui était là, un jeune américain. Et ils étaient là avec leur téléphone pour
Ah
essayer de
oui.
comprendre ce que disait l'autre. C'était super rigolo, quoi. C'était
Ah, c'est
super rigolo.
génial, ça c'est sûr que c'est très fort ces rencontres.
Voilà, et je garde le contact avec eux. Et d'ailleurs, par la suite, ces Américains de Californie, Californiens, ils ont envoyé des cadeaux pour ma fille, des jeux vidéo. Enfin, tu vois, ils étaient tellement contents de cette expérience passée que bon, le seul problème, c'est que bon, elle n'était pas contente parce qu'ils lui ont envoyé des jeux vidéo, elle n'a pas la console. Donc maintenant, elle me saoule pour avoir la console. Donc finalement, je ne sais pas si je les aime bien ces Américains parce que la console, qui c'est qui va l'acheter, c'est pas eux, hein. C'est bien beau d'acheter des jeux vidéo, mais la console,
Ah
voilà.
ouais, c'est clair. Non, non, il faut.
Non, d'ailleurs, je passe un message. Si vous m'écoutez, que vous avez envie d'offrir une console à ma fille, la PS5, eh ben, elle sera très contente. Voilà. Donc n'hésitez pas, vous demandez toutes les coordonnées à Laura, elle sera ravie de vous les donner. Et moi, en échange, je vous offre une deuxième casquette.
Là,
Voilà.
mais tu es trop généreux aujourd'hui. Moi, je pensais qu'on allait avoir un appel pour Dyson, parce que bah, je sais que tu as rencontré l'amour grâce à ta blonde Dyson. Ah non, qui n'est pas Dyson, justement. C'est
Alors,
ça?
je pense que si les gens ne me suivent pas, ils comprennent pas à quoi tu fais référence.
Non, pas
Je
du tout.
pense qu'ils ne vont pas comprendre. Donc en fait, ouais, c'est parti d'un peu d'un délire. Je me suis rendu compte, bon, je faisais un peu le con avec mon aspirateur, Et je me suis rendu compte que ça faisait un peu rire les gens et moi j'aimais bien faire sourire, donc c'est devenu un petit peu ma ligne directrice. Voilà, j'aimais bien jouer avec mon aspirateur. Et puis en fait aussi, le fait de jouer avec mon aspirateur, ça rend mon ménage moins monotone. Voilà, tu vois, je
Ben,
m'invente
bien
des
sûr.
histoires avec lui. Alors c'est pas un Dyson.
Mais oui, en fait, je me trompe.
C'est pas un Dyson. J'aurais bien voulu avoir un Dyson, mais bon, jamais Dyson ne m'a répondu pour me dire, oh, putain, c'est super ce que vous faites, on va vous envoyer un Dyson pour tester. Mais non, jamais ils ont fait ça. Après, par contre, moi, j'aimais bien les aspirateurs, hein. Mais un Dyson, j'en ai un, mais il est filaire. Moi, j'en voulais un, tu vois, sans
Bien
fil,
sûr.
parce que c'est plus
C'est
pratique.
plus autonome.
Alors, j'ai deux Philips. J'ai un Dyson quand même, et puis j'en ai un autre, j'ai oublié la marque, mais elle n'est pas très connue, voilà.
Ok, bah
J'ai
ouais,
deux aspirateurs.
t'es bien équipé.
J'en ai un à chaque étage. J'en ai un à chaque étage.
Oui, tu t'es fait à chaque fois un petit office avec tes produits ménagers, le linge et des équipements pour pas avoir à tout trimballer d'un étage à
C'est
l'autre.
obligatoire. Au début, je me suis dit, est-ce qu'il me faut deux aspirateurs? Ben oui, il faut deux aspirateurs. Je me vois mal descendre les escaliers avec l'aspirateur pour faire un étage. Et puis, non, non, un aspirateur, ça coûte pas très cher un aspirateur. Et puis,
Non, non, bien sûr.
enfin, un Dyson, oui, ça coûte un peu plus cher, mais
Ben moi, j'ai un Rowenta qui est génial. J'aime beaucoup. Et 1000 aussi, ça, c'est top.
si tu vas sur Roventa.fr, tu vas me voir.
C'est pas
Ils m'ont
vrai.
demandé s'ils pouvaient publier une photo de moi avec mon aspirateur.
Tu prends beaucoup de plaisir à animer ton compte Instagram?
Ouais, beaucoup. Franchement, si tu prends pas de plaisir, c'est pas la peine de le faire.
Ouais.
Ça peut pas être une corvée. Après, moi, j'y passe beaucoup de temps. Voilà, parfois un peu trop. Mais ouais, c'est un plaisir. Au début, enfin, mon compte, il a quand même vachement évolué, hein. Au tout début, j'ai commis l'erreur de poster de manière spontanée. Je postais, je voyais un truc sympa, je disais, ah, tiens, je vais faire un post sur Instagram. Voilà. Et puis 2 heures après, ah, tiens, ça c'est sympa, je vais faire une photo, je vais poster sur Instagram. Et non, en fait, ça marche pas comme ça. Maintenant, je suis beaucoup plus dans la réflexion. Je fais un truc qui me plaît. Alors, je suis super enthousiaste. Je me dis, oh là, il me tarde de le poster, mais je réfrène mon envie. Je me dis, cette photo, je vais la packager dans un environnement d'autres photos et j'essaie de construire un petit peu mon feed, ma grille Instagram en amont pour que ce soit assez cohérent. Parce que sur Instagram, c'est un peu comme quand je fais mon ménage, j'aime bien que ce soit nickel. Voilà. Donc j'aime que ce soit carré, qu'il y ait une harmonie, voilà, que t'aies pas l'impression que tu arrives sur le profil Instagram et que c'est un peu un bordel, tu vois. Non, mais comme en fait, je suis sur Instagram comme je suis dans mon ménage. Voilà, c'est structuré. Alors, j'ai cette partie structurée et après, je m'accorde un peu plus de spontanéité dans les réels. Les réels, c'est spontané, hein, je réfléchis pas.
Est-ce que tu utilises des outils pour t'aider, soit dans tes visuels, soit dans ton montage, soit dans la planification des posts?
Ouais, j'utilise un téléphone pour faire les vidéos. J'utilise un stabilisateur d'image pour pas bouger quand je fais des vidéos des fois.
D'accord.
J'utilise un réflexe avec différents objectifs pour faire des belles photos avec des profondeurs de champ, etc. Alors ça, c'est pour la partie matérielle. Évidemment, des perches à selfie, parce que forcément, je suis tout seul moi pour me prendre en photo ou en vidéo. Il n'y a pas le caméraman, le perchiste et
N'y a
tout
pas
ça.
toute
Donc
une
c'est
équipe.
moi. Je fais ça tout seul. C'est comme le ménage, tu vois. Quand je fais, c'est moi qui fais tout. Donc moi, j'aimerais bien qu'il y ait une équipe là qui, quoique je pense que je serais moins naturel. Donc ça, c'est pour tout le matériel. Et puis après, j'utilise des applications. J'utilise beaucoup Lightroom. Lightroom, je trouve que c'est vachement bien parce que bon, t'as une fonction, t'as une application gratuite qui te permet de faire pas mal de choses. Moi, comme j'aime bien ça, j'ai pris l'option payante qui est pas très chère. Je crois que je paye une dizaine d'euros par mois. Mais franchement, je trouve ça vachement bien parce que en fait, j'ai Lightroom, mais j'ai aussi Photoshop. Bon, après, je m'y connais dans le domaine. Si tu connais pas, ça sert à rien que tu investisses là-dedans. Je pense qu'il y a plein d'applications qui te permettent de faire des choses vachement bien.
Et pour la planification?
La planification. Alors là, je veux bien des conseils parce que alors là, je suis dans les choux. Je fais tout au jour le jour. En fait, je planifie pas parce que j'ai essayé une application. Tout de suite, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai jamais compris comment ça marchait.
Oui, tout de suite.
J'ai pas compris comment ça marchait,
Ouais,
donc j'ai
mais
arrêté.
c'est...
Ah, peut-être qu'il fallait payer. J'ai testé, ça n'a pas marché, donc maintenant Je fais au jour le jour. Je prépare. Alors, si, j'utilise un truc, ça s'appelle Preview. Vachement bien, c'est gratuit. Preview, comme ça, mes posts, je les organise comme je veux. Donc, je sais souvent 15 jours à l'avance ce que je vais publier. Ça me permet de visualiser, de dire la photo que je veux poster. Ça fait relié à mon compte Instagram, donc ça la prépare. Mais après, tout mon commentaire et mes hashtags, je les fais au dernier moment.
D'accord.
Ça, je prévois pas.
Et est-ce
C'est alors,
que...
c'est pas la bonne stratégie, je pense. Hein.
Non, c'est pas la bonne stratégie. Mais après, si c'est celle qui te convient, bah c'est ça le principal surtout.
Je peux pas être parfait en tout, hein.
Ben non, mais puis tu mets la barre déjà tellement haute que moi, je pense qu'on peut t'accorder ce petit défaut.
Merci. Mais je veux bien des conseils. J'ai juste pas pris le temps de chercher. Hein. Mais voilà, je veux bien des conseils.
Il y a plusieurs outils qui sont pas mal plébiscités. Il y a Planoly et Later. Moi, j'ai pu tester les deux. Je pense qu'il y a un premier forfait gratuit. Et puis après, tu as des fonctionnalités qui se débloquent avec un forfait payant. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas publier les vidéos ou les carrousels. Donc moi, je suis passée il n'y a pas longtemps, je pense que c'était en début d'année, sur Facebook Creator Studio, donc un outil gratuit et qui était plutôt confortable parce que justement tu peux faire des carrousels. Alors bon, moi c'est mon cas, j'en fais beaucoup, donc c'est beaucoup mieux de pouvoir les planifier parce que sinon à chaque fois je devais les publier manuellement et c'était embêtant. Après les reels et tout ça, c'est toujours pas à mon sens programmable à l'avance, mais tu peux toujours les enregistrer dans tes brouillons et puis juste le publier au moment. Et après, ce que tu peux faire aussi, et ce que je peux te recommander, c'est d'essayer de faire tes hashtags et tes légendes aussi en avance. Si tu as déjà tes visuels, que tu fais ton preview, bah tu peux déjà écrire tout ça et tu gagnes du temps. Même si après, c'est toi manuellement qui fais la publication, bah c'est déjà ça de pris. Et puis, des fois, quand c'est spontané, ça peut être très bien et j'en doute pas que c'est très bien, mais tu te dis un peu après, ah, j'aurais pu tourner ça différemment, ah, j'aurais pu faire un lien avec telle et telle autre photo, ah, j'aurais pu rajouter cette information. Ce que tu prends le temps de faire quand tu te prépares à
C'est
l'avance.
sûr, c'est l'avantage de la préparation.
Voilà. Ouais,
Ouais.
voilà.
Il faut des axes d'amélioration, sinon tu t'ennuies. Hein.
Ben voilà.
Bon, ben c'est mon axe. On va dire c'est ma bonne résolution pour cette année. Je n'en avais pas encore pris.
Ah, ben écoute, on
Tu
veut voir ça alors. Ouais, il faut que tu...
vois?
On veut voir les effets. Est-ce que d'ailleurs ton compte Instagram te permet de déclencher des réservations ou c'est plus une vitrine amusante?
C'est plus une vitrine amusante. J'avais pas pensé. Pouvoir déclencher des réservations avec Instagram, mais maintenant j'en ai eu quand même quelques-unes et ben, je suis très content parce que à chaque fois ça a été des rencontres super, voilà. C'est sur les réservations sur Instagram, ce sont plus des gens qui me suivent et qui tiennent un gîte. Bon après j'ai une communauté assez dense de gens comme toi et moi qui sont dans ce domaine. Voilà. Et puis, ben, chaque fois que j'ai un gîte qui vient, enfin, une réservation d'une personne qui tient un gîte, je vais y arriver. Ben, c'est l'occasion de prendre un apéro qui dure souvent très longtemps et d'échanger sur les bonnes pratiques. Donc, voilà,
Ben oui.
voilà. Non, non, je suis
Ben c'est très chouette, ouais.
Je suis content, mais par contre, j'ai pas vraiment développé de réservation. J'ai quelques demandes, mais ça aboutit pas. Voilà. Mais après, c'est pas forcément ce que je recherche. Je cherche pas à le développer, donc moi, ça me convient.
Ouais, d'accord, parfait. Est-ce que tu aurais trois conseils à donner aux personnes qui nous écoutent et qui hésitent à se lancer ou qui sont à quelques mois,
Oh!
semaines d'une ouverture?
Écoute, ça tombe super bien que tu me poses la question parce que je l'avais préparée. Je me doutais que tu allais me poser cette question et j'ai fait une petite fiche. Le problème, c'est que j'écris comme une mouche, avec des pattes de mouche, et j'arrive pas à retrouver ni l'endroit où je l'ai écrit, ni à me relire. Ah, si, c'est là. Alors, non, mais en fait, mes conseils, ils sont assez bateaux et je sais même pas si ça vaut la peine que je le dise, hein, mais bon, je vais le dire quand même parce que tu me poses la question. Donc, non, je pense que la première chose, c'est il faut aimer recevoir, il faut aimer les gens. Mais ça, je l'ai déjà dit. Je pense que si t'aimes pas recevoir les gens, tu peux pas faire ça. Voilà. Il faut aimer les gens, faire plaisir, te rendre disponible. Il faut être ouvert. Voilà, donc ça c'est vraiment la chose. Et si vous aimez pas ça, je pense qu'il faut déléguer à quelqu'un qui aime ça. Voilà, ça n'empêche pas de tenir ce genre de d'hébergement, mais il faut mettre en face des voyageurs, des gens qui vont aimer faire ça. Moi, à la base, je suis super timide. On le voit pas sur Instagram parce que je me fais un peu violence, mais très honnêtement, au début, je me suis dit, mais est-ce que je vais être capable de recevoir des gens, sachant qu'en plus, ils parlent pas tous français, hein, surtout les Américains. Donc, est-ce que je vais être capable d'assurer un accueil en français, en anglais, être toujours souriant, parce que des fois, t'es mal luné, il faut quand même sourire. Voilà. Donc, ça c'est le conseil. Si jamais tu sais pas faire ça, tu vas avoir des mauvais commentaires. Et les commentaires, on sait que c'est quand même ce qui déclenche aussi les réservations et qui fait que les gens ils vont vouloir venir chez toi. Moi, j'ai de super commentaires et honnêtement, quand les gens ils arrivent, ils me disent, on est venu chez vous parce que vous avez de bons commentaires. Donc, les commentaires, c'est la vie. Voilà. Donc, ça c'est la première chose. Voilà, ça doit pas être juste un apport de revenus, c'est un partage. La deuxième chose, je lis ma petite fiche. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, la déco. La déco, pour moi, c'est super important. On n'en a pas trop parlé de la déco. Moi, je trouve que c'est primordial. Alors, au début, quand je me suis lancé, tu me dis si je parle trop, hein?
Mais non, c'est parfait.
Au début, quand je me suis lancé, je me suis dit, j'ai pas de budget parce que tout était passé dans les travaux. Comment je vais faire? Eh ben, tu fais comment? Tu demandes à tes parents, tu dis, t'as pas des trucs là qui te servent à rien, voilà. J'ai pris le canapé lit qui était dans la chambre de ma fille, j'ai dit, bon, ton canapé lit, hop, il monte dans les appartements, tu le retrouveras peut-être plus tard. Elle était pas contente, mais bon, c'est comme ça. Tu vas sur le bon coin, tu fais des affaires, tu vas chiner, tu regardes les promos, tu vas sur tous les trucs de déstockage, et voilà, moi j'ai commencé comme ça. Mais je pense que c'est pas la bonne stratégie d'aller chez Ikea, tu vois, même si c'est moins cher, et de faire un appartement, c'est quoi, c'est suédois, un appartement suédois. C'est sympa, hein, mais moi ce que j'aime dans mes appartements, c'est qu'ils ont une âme, voilà. C'est assez hétéroclite, mais c'est quand même assez homogène. Donc, moi, je pense qu'avec même un petit budget, on peut faire une déco sympa. Et après, eh ben, petit à petit, j'ai renouvelé des choses que j'avais achetées qui me plaisaient plus, parce que chez Ikea, j'ai été aussi acheter des trucs. Et eh ben, j'ai changé. Voilà, t'apportes des trucs de voyage pour redonner un petit peu d'âme dans ton logement. Tu remplaces le vieux canapé que tu avais trouvé sur le bon coin à 80 euros par un canapé un peu plus cosy, un peu plus sympa. Voilà, et petit à petit, tu refais ta déco comme ça. Mais tu gardes quand même ton âme. Et voilà. Donc, la déco, moi, franchement, c'est un des points qui revient souvent. Les gens me disent, mais j'adore votre déco.
Mais c'est vrai, elle est super. C'est coloré, tout est hyper
Merci.
coordonné, il y a une harmonie très identifiable, quoi. C'est non, non, c'est très joli.
Et Sophie Sergeny, elle n'est même pas venue à la maison. C'est moi tout seul que j'ai fait.
Pourtant, elle est de Marseille aussi, parce que je pense qu'il faut qu'on en parle aussi de cet accent quand même.
Non, on en parle. Pourquoi tu veux en parler? J'ai dit que j'étais de Toulouse. Je sais pas.
T'es de Toulouse? Ah ben non, je savais pas, moi j'aurais dit Marseille, tu vois, mais je reconnais pas mon propre accent, c'est quand même fou.
Non, mais attends. Non, le truc, c'est que tu m'as demandé au début de me présenter. Et je le répétais, hein. Je me suis dit, bon, je vais me présenter, je vais dire. Puis en fait, j'ai rien fait de ce que j'avais préparé. Je ne sais pas pourquoi j'ai passé autant de temps à me préparer pour ce podcast. Parce que j'ai pas lu mes fiches, sauf pour dire les trucs là que je viens de dire. Et donc j'avais prévu de dire que je suis quand même Toulouse. Mais ensuite, je suis parti en Allemagne pour faire. J'étais assistant de français, donc je donnais des cours de français à des élèves là-bas, à Sarre, à Sarrebruck. Et puis ensuite, je suis revenu dans le sud, à Marseille, enfin Aix-en-Provence, Aix-Marseille. J'étais à l'université d'Aix-Marseille pour finaliser mes études que j'ai faites en communication, parce que tu me poses pas la question, mais en fait j'ai fait des études de communication des entreprises.
Génial, d'accord. Donc, et depuis combien de temps t'es installé à Paris? Ça fait longtemps?
Alors ça fait une vingtaine d'années que je suis à Paris. Quand je suis monté et que j'ai quitté le sud et que j'aimais beaucoup, je me suis dit, bon, allez, je reste 5 ans. 5 ans maximum, après je fais mes valises et je redescends dans le sud. Ben, c'était il y a 20 ans, plus de 20 ans, et j'y suis toujours. Voilà. Puis maintenant, bon, c'est un peu compliqué, mais je pense que je vise la retraite, là. Je pense que pour la retraite, alors je ne suis pas sûr de revenir dans la ville rose, parce que bon, je suis de Toulouse, mais maintenant j'ai plus trop de famille. Il me reste ma sœur qui est dans la région. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais je vais être tonton. Je vais
Oh,
être
mais
tonton. Donc
félicitations!
on n'y croyait plus, hein. Ouais, un message à ma sœur. On n'y croyait plus, mais on est content. En tout cas, moi, je suis content parce que c'est la première fois que je vais être tonton de ma vie. Voilà.
Ben oui, bravo, c'est génial.
J'étais déjà papa, c'est bien, mais tonton, c'est bien, ça fait papa tonton. Et puis, j'aime bien le sud, mais j'aimais bien aussi toute la côte landaise, atlantique, tout ça, parce que j'ai une caravane dans un camping là-bas aussi, où je vais l'été.
Ah oui.
Voilà, donc ouais, j'aimais bien le sud.
Ok. Mais alors, du coup, on a un peu dévié et il nous reste un conseil normalement.
Ah, et bien je reprends ma petite fiche, et qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, c'était le... Moi j'avais envie de dire que... Si vous avez plusieurs logements, le channel manager, c'est quand même une bonne option, hein.
Génial.
Parce que moi, pendant longtemps, je n'en ai pas eu, parce que j'en voyais pas forcément l'utilité, parce que je savais pas en fait vers lequel me diriger. Mais aujourd'hui, je suis super content parce que ça me simplifie la vie. J'ai plus le stress du surbooking, ça enfin, c'est fini. Pour la gestion des tarifs, c'est quand même vachement plus simple. J'ai une vision globale de mon planning. J'ai pas besoin de switcher d'une plateforme à l'autre. Ça me permet aussi parce que je me bridais. Tu vois, je voulais pas aller au-delà de Airbnb et Booking parce que déjà que deux plateformes, c'est un peu compliqué de faire la connexion entre les calendriers. Donc je voulais pas aller ailleurs. Mais là, ça me donne une opportunité supplémentaire d'aller explorer d'autres plateformes. Ça me donne aussi, quand même, point important, la possibilité pour les clients réguliers d'offrir via mon site internet des réservations en direct, voilà, avec les paiements automatisés, etc. Donc, ouais, c'est un super confort. Et franchement, pour 50 euros par mois, je pense que ça les vaut, quoi. Parce que même, tu vois, tout à l'heure, je parlais, c'est le coût d'un ménage sur le mois. Mais quand tu as des réservations en direct ensuite, bah, c'est aussi la commission que tu payes pas aux plateformes qui te permettent de payer le channel manager.
Bien
Voilà.
sûr. Super, non mais des excellents conseils. On arrive déjà à la fin de cet échange. Alors, pour conclure, j'ai deux dernières questions. La première, c'est dans quel établissement aimerais-tu séjourner le temps d'un week-end?
Alors ça, c'est une bonne question. Le temps de week-end, ça peut pas être plus, hein?
Oh si, bien sûr, c'est la durée que tu veux.
Alors, je pense vraiment que j'aimerais aller à Agen. Donc, Vincent, si tu m'écoutes, c'est chez toi que j'aimerais venir. Parce que je sais pas si tu connais Vincent de Quand la ville dort.
J'ai jamais eu le plaisir d'échanger avec lui, mais je suis le compte et je vois qu'il est assez actif aussi et que c'est un établissement qui plaît beaucoup.
Je pense que c'est l'hébergement de référence sur Agen, hein. Il a une demeure absolument magnifique, moi je trouve grandiose, avec une décoration art déco qui est juste à tomber. En plus, moi je suis très très admiratif de ce qu'il fait parce que je sais qu'il travaille tout seul. Vraiment, je lui tire mon chapeau, c'est un lieu magnifique. Et donc voilà, mon choix sans hésiter, c'est d'aller à Agen. En plus, je pourrais manger des pruneaux, donc c'est génial. Voilà.
Parfait. Et pour finir en musique, quel titre illustre le mieux l'état d'esprit des Fauvelles?
Je ne sais pas si ça illustre le mieux mon état d'esprit, enfin l'état d'esprit de Fauvel, mais en tout cas, peut-être le mien. J'adore Angèle. Donc Angèle, si tu m'écoutes, si tu écoutes ce podcast, t'es invité. Voilà, c'est gratos. Gratos, offert.
Ah, elle est invitée, nous on a droit à une
Non
vieille
mais attends, non
casquette.
mais
On est
moi
d'accord.
je suis fan d'Angèle, elle est top. J'adore ce qu'elle fait. En plus, elle a des chansons assez engagées et tout. Et bon, ma chanson préférée parce que je dévie, ce serait Libre. Si ce soit assez récente, mais voilà, je trouve que elle me parle à moi parce que je me reconnais dans cette chanson. où elle parle d'émancipation, de revanche un petit peu qu'elle a pu prendre sur la vie, le fait qu'elle soit pas sûre d'elle. Et puis voilà. C'est un peu moi en fait, tu vois, quand je me suis lancé dans le meublé de tourisme, ben j'imaginais pas, tu vois, que ça pourrait m'apporter autant de bonheur. Et je pèse mes mots, hein. Franchement, moi je suis tellement content de rencontrer des gens tellement différents, sincères au final. Bon, il y a des exceptions évidemment, mais globalement, je rencontre des gens formidables. Et ça, je trouve que c'est une force. Une question que tu m'as pas posée et à laquelle je voudrais répondre, je peux?
Ah oui, tout à fait.
Je pense que quand tu fais ce genre de métier ou que quand tu tiens ce genre d'activité, surtout ne pas avoir de préjugés. Voilà. Je voulais dire que parfois, on se fait une idée des gens qui vont venir sur, ça peut être n'importe quoi, sur leur origine, sur leur âge, sur leur profession, je n'en sais rien. Et en fait, il faut surtout pas avoir de préjugés parce que moi, j'ai souvent été, mais agréablement surpris. Tu vois, récemment, tiens. Récemment, j'ai eu 5 filles de 20 ans qui ont réservé chez moi, 5 italiennes, et je me suis dit, bon, bah, 5 filles qui viennent, 20 ans, bon, bah, les filles, enfin, faut le dire, hein, les filles, ça rigole beaucoup, ça fait du bruit, et bon, bah, quand t'as 20 ans, t'as pas forcément toujours les pieds sur terre, et j'avais un peu peur bah, de retrouver le souk, tu vois. Et au final, c'était mes 5 filles exemplaires, pas un bruit, un appartement nickel. Et tu vois, à chaque fois, je me dis, mais faut pas se faire des plaintes sur la comète, faut pas imaginer quoi que ce soit. Faut juste recevoir les gens, et puis après, on voit quoi. Faut pas avoir de préjugés. Et en tout cas, nous, ici, au Fauvel, c'est zéro préjugé. Je le dis régulièrement sur mon compte. Tu vois, un autre exemple. Il y a quelques années, au tout début, j'ai reçu des avocats. Et là, je me dis, tiens, des avocats, c'est cool, ça va être nickel et tout. Je pense que c'est les pires voyageurs que j'ai jamais eus. Le mec, il fumait dans l'appartement, il n'en avait rien à faire. Il fumait. Quand je lui dis, faut pas fumer dans l'appartement. Il me dit, ben je fume pas dans l'appartement, je fume dans la cage d'escalier. Tu vois? Juste ça. À minuit, il tapait du pied en train de jouer de la guitare. Les gens qui avaient en dessous, ben, ils n'étaient pas contents. Il réserve pour 4, pendant le week-end, il ramène 2 autres personnes sans me prévenir. Voilà. Donc, voilà. J'en bafouille parce que vraiment, je pense que c'est une chose importante, voilà, ne pas avoir de préjugés. Je pense que ça a dû t'arriver aussi, hein, de te dire.
Complètement, mais j'allais te dire, je partage complètement ce que tu viens de dire et je trouve ça super que tu le soulignes parce que c'est vrai qu'on ne le dit pas assez. Et moi, la première, je me fais toujours plein d'idées par rapport à mes futurs voyageurs selon les échanges qu'on a eus, selon ils sont relous à me poser 15 000 questions toutes les 2 minutes par email ou par téléphone, selon ce que j'imagine de leur vie, etc. Ou ce que je constate quand ils arrivent aussi, bah, selon la voiture qu'ils ont, leur attitude, bah, je me fais des idées. Et en fait, vraiment, à chaque fois, et je le confirme avec mon mari, on ne peut faire jamais de prédiction, quoi. Y a pas de règles. Les plus aisés sont pas forcément les plus respectueux. Les
Tout à
plus
fait.
jeunes sont pas forcément les plus fêtards et il n'y a pas
Tout
de
à fait
règles.
pas.
On peut pas se faire d'idées en avance et je trouve ça très bien de le signaler, de le rappeler et c'est ce qui prouve aussi ton ouverture d'esprit et ça, je trouve ça remarquable.
Non, mais après, je pense que c'est humain de. Tu connais pas une personne, et par rapport aux quelques échanges ou aux informations dont tu disposes, tu vas te faire un imaginaire, tu vas imaginer cette personne. Mais. Même si c'est humain, faut se dire. Et maintenant, c'est mon leitmotiv. Je me dis, bon bah, ok, très bien. Je prends note de toutes ces informations et je verrai sur place quand ils arrivent. Voilà. Et puis voilà, de grandes surprises. Et je veux dire aussi que quand les gens posent beaucoup de questions, c'est pas forcément qu'ils sont relous. Ils ont un stress, ils ont des angoisses. Là, récemment, j'ai reçu. Bon, écoute, c'était des personnes handicapées, ils étaient sourds, Et en fait, c'était la première fois qu'ils louaient chez les gens, pardon. Donc, ils m'ont posé plein de questions. Je me suis dit, mais pourquoi ils me posent toutes ces questions? Et en fait, elle m'a dit, moi, j'étais angoissé parce que ça m'est arrivé de prendre contact avec des gens sur Airbnb et en fait, ils se moquaient de moi. Et elle était angoissée par rapport à ça. Et bien, je peux te dire qu'elle est repartie de chez moi. Elle était mais ravie. Elle m'a dit, mais ça m'a fait un bien fou. De me sentir complètement accepté, il n'y a pas eu de problème d'échange, on a rigolé. C'est des gens formidables, vraiment. J'en ai parlé sur mon compte parce que vraiment, ils m'ont beaucoup touché. Et voilà, encore une preuve que voilà, il ne faut pas avoir de préjugés. Et puis, si les gens me posent beaucoup de questions, c'est que ça cache peut-être un peu une anxiété, il faut les rassurer.
Complètement, ouais. Mais alors, parfait. Je trouve que ce sont d'excellents conseils. Est-ce que tu peux nous donner les marques de literie et de linge de maison que tu as choisi?
Je peux le faire. J'ai acheté la literie chez Conforama. Maintenant, j'ai mis le prix. Même si le budget était serré, la literie, c'était le truc, je ne transigeais pas. Je voulais des matelas, je les ai essayés, j'ai voulu quelque chose de confort. Et encore, pas plus tard qu'hier, quelqu'un qui m'a fait un commentaire en disant la literie, elle est excellente. Ça, pour moi, on fait pas d'impasse sur la literie. Après, le linge de maison, j'ai pas forcément de marque. Moi, je vais sur des ventes privées parce que je veux pas mettre beaucoup dans le linge de maison. J'ai trouvé des choses très très sympas. C'est du Cacharel. J'ai essayé de prendre ça parce que c'était des couleurs unies, ça me plaisait bien. Maintenant, chez Conforama, j'ai trouvé des choses très sympas. Mon conseil, ça serait quand même de prendre des choses plutôt unies, hein, les motifs à fleurs, à moins que ce soit un concept de déco. L'uni, c'est très bien, je pense que. Et puis beaucoup de prendre des parures. Je trouve pas le mot, mais en plusieurs quantités parce que.
Ouais, plusieurs jeux de parures pour pouvoir faire le roulement avec le ménage.
De parures identiques, voilà.
Oui. D'ailleurs, c'est toi qui t'occupes du linge ?
Ouais, alors ça, c'est moi qui m'en occupe. J'ai en échangeant avec beaucoup de gens, je sais qu'ils délèguent beaucoup. Moi, après, j'ai finalement que deux appartements. Ça correspond à quatre lits, voire cinq si le canapé-lit est pris sur l'appartement que j'ai en duplex. Donc, j'ai une grosse machine, je fais mes trucs. Et puis, je repasse moi-même. J'ai investi là dans une centrale à vapeur Philips. Je suis assez content. J'aurais voulu une Calor, mais le modèle que je voulais était plus disponible et j'avais pas envie d'attendre. J'étais tellement pressé de recevoir ma nouvelle centrale à vapeur que j'ai opté pour une Philips et j'en suis content. Voilà. La centrale à vapeur, Franchement, t'as pas de centrale, c'est pas la peine si tu fais le linge toi-même.
Écoute, super. Je te suis très reconnaissante de m'avoir accordé ce temps et d'avoir partagé aussi avec toute transparence et simplicité tous tes bons conseils. Donc un grand merci Fred, j'ai hâte de découvrir les gagnants des casquettes et de voir si ta fille va bien recevoir une PS5.
Ouais, et puis moi j'ai hâte de savoir si Angèle va venir.
Ah oui, carrément. Oui. Voilà. Non, mais je pense que c'est une fidèle auditrice, donc elle sera touchée. Et y a moyen qu'on gagne quelques places de concert, là, je pense.
Je peux en profiter pour en passer un petit bonjour, comme à la télé ?
Bien sûr, je t'en prie.
Je passe un bonjour à ma maman, à mon papa, à ma sœur, qui va me donner un neveu incessamment sous peu. Et puis, je passe le bonjour à Vincent. J'espère que je viendrai à Agen un de ces jours pour visiter quand la ville dort. Voilà. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Je passe le bonjour aussi à tous mes anciens profs qui maintenant sont à la retraite, qui ont le temps d'écouter le podcast.
Parfait. On va avoir une explosion d'écoute sur cet épisode.
C'était super d'échanger avec toi. Merci beaucoup, Laura, de m'avoir invité. Je suis très ravi. À très bientôt, Laura. Merci.
Faut pas partir comme ça. Avant de se retrouver pour un prochain épisode, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast ou à m'identifier sur Instagram. Promis. Maintenant, j'arrête de parler. Fais bien attention.
voilà.